Françoise Dieppe, je suis très heureux de vous rencontrer dans le cadre du 11e Festival interculturel du Comble du Québec à Montréal, où nous nous trouvons pour cette interview. Alors vous représentez ici la Cour des Comptes, et vous me faites non, donc allons-y, je vous écoute.
Alors la Cour des Comptes, en fait, ça a été un partenaire à une époque. Quand j'étais au Festival d'Avignon, voilà. Mais dans le fait, je suis venue ici parce que je représente une association qui s'appelle Caravonnage et qui organise un festival qui s'appelle Palabrage. Et en même temps, je suis venue parce que j'ai rencontré aussi Marc au Burkina Faso, parce que, voilà, il y a plusieurs autres choses. Voilà. La Cour des Comptes, c'est un partenaire pour certaines actions. Voilà.
C'est ça, mais vous avez été impliqué dans la Cour des Comptes d'une manière ou d'une autre, ou alors je me suis tout à fait trompée dans ma petite recherche à votre propos.
C'est exactement ça, voilà.
Voilà. Alors, écoutez, on va continuer. J'étais sur votre site et là, j'ai découvert une très belle formule pour présenter ce qu'est un conte. Vous y dites, dire un conte, c'est comme on ouvre une porte. Alors, j'aimerais que vous développiez un peu cette formule.
Alors, en fait, c'est un petit garçon qui m'a inspiré cette formule. Parce qu'il fut un temps où je travaillais beaucoup avec les scolaires, en particulier avec des enfants en difficulté. Et j'alliais l'écrit et l'oral, parce que moi je viens en fait du monde des bibliothèques au départ.
Et donc, vous avez fait les deux plus beaux métiers du monde, bibliothécaire et conteuse.
Je suis assez convaincue de ça aussi, oui.
Voilà. Là, je récupère mes notes, là.
Voilà. Alors, voilà. Et donc, à cette époque-là, j'intervenais après la classe pour des gamins qui avaient beaucoup de mal, justement, avec tout ce qui était scolaire. Et je racontais et je leur montrais des albums. Et j'avais devant moi un petit garçon qui devait avoir à l'époque 3 ans et demi, qui accompagnait sa grande sœur. Parce qu'on ne pouvait pas laisser cet enfant tout seul dans la rue, donc il venait avec sa grande sœur. Et je racontais, et après je montrais des livres, et un jour il me dit « Ah, mais c'est bien, parce que toi, quand tu racontes, c'est comme si tu ouvres une porte. » Et je me suis dit « Ben, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. » C'est-à-dire, moi, j'ai envie, quand je raconte, que les gens à l'intérieur d'eux aient une porte qui s'ouvre et puis qu'ils soient comme des acteurs, de même des visiteurs aussi d'un monde qui en fait est un monde fictif mais dans lequel ils rentrent eux, voilà, comme s'ils étaient là réellement et voilà.
On a souvent dit que, ou on pense souvent à tort, que le conte est réservé à un public jeune ou un public d'enfants. Votre expérience de bibliothécaire jeunesse m'intéresse beaucoup pour avoir votre réaction à cet égard et sur le public enfantin.
Alors, moi je trouve honnêtement que le conte c'est fait pour les êtres humains, ni pour les plus petits, ni pour les plus grands, c'est vraiment fait pour tout le monde. Voilà. Le public enfant, c'est un public qui est assez particulier, surtout le public des tout petits, parce que moi je raconte aussi beaucoup aux très petits. Quand je dis très petits, ça veut dire des enfants qui n'ont pas le langage a priori, puisque je raconte à partir de 3 mois, 6 mois, je raconte dans les crèches aussi. Voilà.
Et alors vous racontez quoi dans les crèches? C'est la musique de la voix alors qu'ils écoutent?
C'est très étrange parce qu'on ne sait pas exactement au niveau du contenu. Qu'est-ce qui passe? On ne peut pas le vérifier. Et d'ailleurs, ça n'est pas le projet. L'idée, c'est de partager un moment avec eux. Il y a une communication qui s'établit. Et j'ai eu des expériences qui m'ont prouvé que ça se passait vraiment entre nous, qu'il y avait quelque chose qui circulait. Alors moi, j'y vais avec des histoires qui sont toutes simples, souvent des histoires qui parlent de leur quotidien, des tout petits contes avec beaucoup de répétitions, des formules chantées, des choses à montrer. Et tout ça permet de rentrer en contact et d'avoir un moment de partage entre nous. Et puis bon, après, j'ai personnellement des expériences, à la fois en tant que maman, mais en tant qu'intervenante, qui m'ont prouvé que même un très petit enfant, même un nourrisson, perçoit des choses dans la parole qu'on lui donne, qu'on partage avec lui, du moment que nous, en face, on est complètement sincère et ouvert. Et qu'à ce moment-là, il y a quelque chose qui passe. Et c'est vraiment dans l'ordre du langage. C'est pas forcément en le touchant ou en le caressant ou je ne sais pas quoi. Non, il y a quelque chose qui passe par le langage, par les mots. Et ça me fascine complètement.
Alors vous avez été, j'y reviens, bibliothécaire de jeunesse, c'est-à-dire que vous avez été confronté au rapport de l'enfant ou de la jeune personne avec la littérature écrite. Et vous êtes maintenant dans ce qui est la littérature orale. Comment voyez-vous l'apprentissage de l'un, littérature écrite, et de l'autre, littérature orale, pour le jeune public ?
Pour moi, c'est totalement complémentaire. Après, réellement, je suis toujours surprise. On en parlait l'autre jour avec une vieille amie qui s'appelle Suzy Platiel, qui est ethnolinguiste et qui a travaillé sur les populations où il n'y a pas d'écrit, justement. Et on dit, mais nous, chez nous, on ne se rend pas compte qu'en fait, la première chose à faire, c'est déjà d'apprendre à parler et à s'exprimer. Et ensuite, on peut rentrer dans l'écrit. Bon, c'est vrai que chez nous, comme on a maintenant un fond assez extraordinaire de qualité d'écrit, ça permet des fois, pour nos populations qui, je crois, ont perdu une certaine forme d'oralité qui existait avec des formules que les grands-mères disaient. Mais on l'a perdu, ça, parce qu'il y a des liens qui se sont distendus entre les générations. On a déménagé. Moi, la première, hein. Quand j'ai élevé mes enfants, j'avais pas ça sous la main. Et je l'ai retrouvé dans les livres. Et ça m'a permis de replonger dans l'oralité et de partager à nouveau avec mes gamins. Alors que autrefois, je pense que ça se faisait aussi d'une autre façon. C'est une forme de dialogue pour moi. C'est une façon de découvrir le monde. C'est toujours l'idée d'ouvrir la porte, hein, de toute façon, oui. Sur soi et sur l'autre.
Alors dans cette littérature orale, on peut dire qu'il y a, enfin vous me direz si je me trompe, hein, qu'il y a trois catégories, les contes, les légendes et les récits de vie. Comment vous situez-vous par rapport à chacun de ces trois modes d'exprimer la littérature par la voix ?
Oula, alors comment dire ? Pour moi le récit de vie, il est intéressant, mais souvent, alors en dehors je parle des albums pour les petits-enfants qui justement peuvent lui permettre, et les histoires aussi pour les petits gamins qui traitent de choses très pratiques de sa vie, les difficultés à s'endormir, la peur du noir, la nourriture qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on va aborder, c'est comme ça qu'on va découvrir l'autre et tout. Ça, c'est des histoires qui lui permettent de découvrir le monde, en même temps avec la distance de la fiction, et tant mieux, parce que sinon, il y a des choses qui seraient insupportables si elles étaient dites directement. Ça fournit un intermédiaire. Bienvenu, voilà.
Ça, c'est la fonction de la fiction, en quelque sorte.
Hein. Voilà, et pour moi, dans le récit de vie, c'est ça qui est intéressant. Surtout si c'est pas trop ciblé, parce que souvent, si justement le gamin qui n'arrive pas à dormir voit l'adulte arriver avec une histoire d'un personnage qui justement n'arrive pas à dormir, c'est gros comme une maison, il nous voit arriver et à ce moment-là, il dit non, je n'en veux pas de ton histoire. Voilà. L'avantage du conte, justement, c'est que tous ces aspects de la vie, ils y sont. Mais d'une façon beaucoup plus subtile, la distance pour moi, elle est très importante pour que justement on arrive à rentrer en toute liberté et à trouver la nourriture dont on a besoin au moment où on en a besoin. C'est pour ça que souvent, même si je raconte des choses qui sont en lien direct avec la vie ou en général, voilà, je mets quand même des personnages qui puissent être suffisamment loin de celui que j'ai en face de moi pour qu'ils puissent y rentrer librement. J'aime bien le conte traditionnel parce que j'y trouve une grande liberté à la fois pour moi et pour l'auditoire et en même temps une accumulation de sagesse et de sens tellement grande que je sais qu'en face, chacun pourra y prendre ce qu'il veut. Pour moi, le récit de vie, il est très marqué par la personne qui raconte sa propre vie. Voilà. Et ou alors, vous savez, les choses qu'on écrit nous-mêmes, je trouve qu'elles n'ont pas encore acquis cette espèce de sagesse qui a besoin d'être là pour qu'elle soit universelle. Et c'est ça qui m'intéresse dans le conte traditionnel, c'est son universalité, et que du coup, en face, tout le monde peut le partager. Voilà.
Alors on a le conte, la légende, le récit de vie et la légende dans tout cela. Alors, elle se situe où ?
La légende, si on prend au sens étymologique du terme, c'est ce qui doit être lu. Et en fait, c'est souvent attaché à un lieu. Alors effectivement, bon, moi, il y a des légendes qui sont chez moi, que je raconte, mais c'est quelque chose... Je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé, même quand j'étais enfant, et donc je n'ai pas de terroir, je dirais, spécifique, dont je transmets absolument la légende, c'est-à-dire tout ce qui est l'histoire... mythique ou réel, voilà.
Alors vous avez beaucoup voyagé et vous voyagez encore puisque vous avez évoqué les activités que vous avez avec, en liaison avec l'Afrique. Quel est le lien que vous établissez entre toutes ces géographies que vous avez fréquentées dans vos voyages et en particulier l'Afrique que l'on retrouve représentée ici aussi à Montréal ?
Alors, pour moi, ça fait partie d'un tout parce que je trouve qu'en tant que conteur, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer le même et le différent. Il y a donc ce fameux lien entre nous, et l'universalité du conte qui fait que moi j'ai pu arriver la première année en 98 au Burkina Faso, raconter une version des enfants perdus dans la forêt, le petit poussé quoi, hein, en gros. Et puis avoir en face de moi une jeune fille de 13 ans qui vient me voir et qui me dit « je la connais ton histoire ». Je lui dis « ah oui ». Et là, elle me raconte, elle, quasiment la même histoire, sauf que, comme ils sont dans une culture animiste, il n'y avait pas besoin d'avoir un personnage pour sauver les enfants. Dans mon histoire, il y avait une lavandière qui faisait traverser un fleuve à des gamins pour les mettre à l'abri de l'ogre. Elle dit « nous, on invoque le génie de la rivière ». Et puis là, d'un coup, ben voilà, ça ouvre un dialogue et on explore le même et le différent. Voilà, c'est ça qui m'intéresse dans tous ces déplacements, c'est de voir qu'on a une humanité commune et que justement, ben, on a des choses à partager plutôt que des raisons de se battre. En tout cas, c'est ce que j'espère et c'est pour ça, moi, que je raconte.
Alors, un autre aspect de vos activités, c'est la formation au conte. J'aimerais savoir comment on peut former au conte. Quels sont les instruments, la boîte à outils que vous avez en tant que pédagogue pour former des conteurs ?
Alors moi, je commence toujours par une entrée en matière dans le vif du sujet. Je trouve que bon, tous les discours théoriques ne remplaceront jamais le fait de s'y mettre, quoi. Parce que un public, en fait, il est là, il écoute. Mais c'est bien si à un moment il peut le prendre aussi pour lui. Et le propre du conte, c'est que quelque part, il y a l'artiste conteur qui est sur la scène, qui lui effectivement fait un travail de mise en forme, mais en même temps, ces contes appartiennent à tout le monde. Alors moi, dans le stage, je commence par ça, c'est-à-dire à leur dire, ben voilà, ça vous appartient aussi, que vous vouliez devenir conteur professionnel ou pas, vous allez rentrer dans ce sujet, dans cette matière-là, et puis vous allez commencer à vous imprégner là-dedans. Donc je fais une chaîne orale, en fait, en début. Et je raconte des contes à des groupes, et je le fais circuler, ces contes-là, entre les groupes. Donc les gens s'emparent de cette parole. Et une fois qu'ils sont plongés dedans, et puis qu'ils ont un peu expérimenté comment eux, avec leurs propres mots, ils peuvent rentrer dans ces histoires et comment ils arrivent à les transmettre avec toutes les difficultés qu'ils ont. Là, on sort et puis on parle de la théorie, on parle effectivement de ce matériau extraordinaire, on parle des sources. Parce que ça, là, je retrouve toujours, moi, mon fond de bibliothécaire, c'est-à-dire que, bon, ben, je leur dis, voilà, il y a tel bouquin, tel truc, etc. Et puis, voilà comment on peut sortir une histoire d'un écrit, essayer de se l'approprier parce que c'est comme ça qu'elle prend vie. Chair et souffle, quoi, dans la gorge du conteur. Voilà. Et donc, moi, je pars donc de cette pratique pour arriver ensuite à une connaissance du fond et puis à ce qu'ils aient envie. Voilà.
On a beaucoup parlé de la crise du compte, du fait que, avec toutes ces nouvelles technologies qui permettent une sorte de sociabilité virtuelle, que le compte n'a plus sa place, n'a plus son public. Quel est votre sentiment à vous qui êtes une actrice du monde du compte à cet égard ?
Je suis très frappée par le fait que, en fait, même si les gens, effectivement, manipulent maintenant, et alors en plus, les enfants, deux fois plus, tous ces instruments virtuels, ça ne remplace pas le plaisir d'être face à quelqu'un qui leur raconte à eux une histoire. Hein, comme disent les Africains, oui, la télé, c'est très bien, enfin... En plus, j'en connais beaucoup qui, effectivement, sont scotchés des fois devant la télé. Mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, ils ont besoin d'avoir la personne devant eux. Et les enfants de chez nous et les adultes aussi, c'est pareil. Et quand je vois, nous, on organise un petit festival donc, dans notre région qui s'appelle Palabrage, qui donc est inspiré justement par la palabre africaine, aussi cette rencontre de culture. Il y a du monde. Les gens viennent, ils en ont envie, ils ont du plaisir à ça. Et moi, quand je les retrouve ensuite au marché le dimanche, eh ben voilà, ils me disent « Oh, c'était bien, on a été heureux de vivre ça ». Voilà. Donc, certes, il y a cette ouverture sur le monde par les médias, les nouveaux, je sais plus, les nouvelles technologies, etc. Ça n'empêche pas. Le besoin de relations humaines et d'avoir quelqu'un en face de soi qui nous raconte une histoire. Et ce voyage-là, sans images autres que les images intérieures.
Alors, racontez-nous maintenant un peu, pour terminer cet entretien, Palabrage, c'est quoi ? Ça se déroule à quel moment et comment vous organisez cette manifestation ?
Palabrage, ça a démarré sur un pari. Deux amis conteurs, un burkinabé et un tchadien, qui m'avaient dit un jour « tu nous organiserais pas quelque chose dans ton village ?» Moi, j'habite dans une région où on a une tradition très forte sur la tauromachie.
Voilà. Dites-nous quelle région et quel village, comme ça.
Le village s'appelle Nage et Solorgue. C'est donc une région qui est à l'ouest de Nîmes. Et c'est limite de la Camargue. Et effectivement, dans ce sud-est, on a une tradition très forte avec les taureaux et avec un certain nombre de fêtes votives. On appelle ça comme ça, les fêtes votives chez nous. Voilà. Moi qui ai beaucoup voyagé, j'avais toujours des gens qui venaient chez moi et j'avais envie d'essayer de voir si les gens voudraient partager cet ailleurs qui vient chez eux. C'est pas toujours simple, mais je me suis rendu compte qu'en fait, à partir du moment où effectivement moi je fais des spectacles, je propose aux gens de venir en spectacle en duo et qu'il y ait quelqu'un d'ici et quelqu'un d'ailleurs. Donc ça donne une porte d'entrée pour chacun. Et ça permet effectivement que puisse se développer un dialogue. Et maintenant, on a des soirées à 300 personnes en extérieur. Parce que chez nous, en général, il fait beau l'été. Voilà, on a des belles nuits, en tout cas des journées chaudes, mais des très belles nuits. Et voilà, et il y a une envie réelle de la part des gens. On allie avec un projet de relation avec un village du Burkina. Donc les gens en plus ont cette relation à travers des photos. Il y a des gens qui viennent, qui leur parlent de l'ailleurs et les gens d'ailleurs découvrent notre ici à nous. Voilà. Donc c'est un festival qui est sur le thème du partage interculturel. Et ça fait maintenant, ça sera la 8e édition cette année. On a une association avec plein de bénévoles qui sont des gens très moteurs. On a très peu d'argent, mais ça fonctionne. Et c'est début juillet, voilà.
Très bien. Françoise Dieppe, je vous remercie pour ce palabrage qui a ouvert de très belles portes vers des mondes que l'on a découverts grâce à vous et qui mettent bien en évidence l'importance et l'universalité du conte. Merci Françoise Dieppe.
Merci beaucoup.